français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Mes chers amis, ici c'est Marseille, mais ici c'est la France! Mes amis, vous avez dans votre vote, le 9 juin prochain, le pouvoir du commencement, le pouvoir du changement, et si vous le décidez, le pouvoir du redressement. À l'heure où tout paraît incertain, c'est vers la France, encore et toujours, que regarde une jeunesse française en quête de repères et d'idéal, une jeunesse française qui veut bâtir et non déconstruire. Il y a 5 ans, jour pour jour, le jeune militant, inconnu que j'étais, s'est retrouvé plongé dans le grand bain de la politique. À chaque fois que j'ai pris la parole, je l'ai fait en votre nom et au nom de personne d'autre. Je me suis efforcé de défendre en priorité les gens ordinaires, ces millions de Français qui assument les difficultés du quotidien avec courage, avec pudeur et qui constituent les piliers de la Maison France. Le 9 juin, avec nous, la France revient et l'Europe revit. Vive la République et vive la France!
Est-ce que vous suivez la politique?
Ouais, un petit peu,
oui. Un peu.
C'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Pas tout ça, toutes les infos, les machins. Jamais, je sais pas, on va chez nous, on va pas ouvrir la télé pour regarder les infos. C'est pas ce qui nous intéresse. Déjà, il faut que ce soit la leur. Un coup sur deux, il n'y a pas. Et puis, ça nous intéresse pas, c'est pas un truc qui va nous intéresser.
La politique.
Oui. En fait, ce qu'ils racontent, des fois, ils disent des choses que c'est pas forcément des vraies informations. C'est ça qui nous... On veut pas entendre, donc regarde pas, puis ça va plus vite.
Je trouve qu'on est quand même un peu oublié, quoi. On centralise tout autour de la ville et puis on oublie un peu la campagne, quoi. Bah, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, on n'en parle pas souvent. De la campagne.
Par exemple, je pense où, quand il y avait les élections, et ben, on avait reçu un papier dans la boîte aux lettres des présidents, de ceux qui se présentaient du moins. Et Marine Le Pen, c'était la seule qui parlait des agriculteurs. Elle disait qu'on faut penser aux agriculteurs qui nous nourrissent tous les jours, qui produisent du local, qui viennent de la France, tout ça. Puis après, je sais plus trop ce qu'elle disait dans son discours, mais j'avais été attiré par ce discours.
Benoît Coquart.
Quand on a commencé à se rendre compte que la progression très importante du vote pour l'extrême droite était très ancrée dans les mondes ruraux. Et ensuite, voilà, il y a eu l'effet gilet jaune où on a vu ces populations-là. Et c'est devenu de plus en plus compliqué pour un politicien, une politicienne, de dire je veux parler à la jeunesse des quartiers, on va dire, et de la ruralité, ou de la France périphérique, comme ils aiment beaucoup dire. C'est-à-dire qu'on a conscience que c'est aussi potentiellement une question sociale, qu'il y a des problèmes spécifiques qui se posent aux jeunes ruraux. Et aussi, on a très envie, dans toute une partie du champ politique, de les définir comme la vraie jeunesse à défendre. notamment pour l'opposer à une autre, pour l'opposer à la jeunesse des banlieues. D'un côté, il y aurait les jeunes bien de chez nous, bosseurs, etc., et de l'autre, les jeunes issus de l'immigration, qui seraient un petit peu l'exact inverse de ceux qui seraient invisibilisés et oubliés. Tout ça, évidemment, ça sert des ambitions politiques. C'est plutôt la question de la France des oubliés, la France des invisibles. C'est un vocable qui est parti de l'extrême droite, hein, qui a été un moyen, notamment pour le Front National à l'époque, de renouer avec la question sociale, mais qui a été très largement repris aujourd'hui par le champ politique, notamment via le succès de la notion de France périphérique, qui explique qu'en gros, la société française, elle est structurée par une opposition entre les zones éloignées des grandes villes et la grande ville, notamment Paris, qui concentre les populations que, dans ces théories-là, on appelle les bobos, qui auraient, d'une certaine manière, tous les avantages liés aux politiques publiques, au développement économique, tandis que les populations laborieuses, besogneuses, elles seraient les grandes oubliées, en fait, du développement. Et il y a un vrai enjeu, aujourd'hui, d'aller chercher... des votes ruraux, des électorats ruraux, donc les jeunes ruraux, ils sont pris en fait. La manière dont on parle des jeunes ruraux, c'est pris en fait dans cette grande boule de neige là, où il faut se réclamer toujours d'avoir, notamment quand on est un candidat au présidentiel, là on l'a beaucoup vu, d'avoir un grand-père paysan, en fait, comme les trois quarts des Français, d'avoir au moins un pied dans la terre et pas de se présenter comme un énarque parisien qui ne se rendrait pas, voilà, en province. Tout ça, c'est des enjeux un petit peu de présentation de soi et de jeu des images sociales, quoi, qui nous disent peu en fait des évolutions concrètes de ce que sont les jeunes ruraux, en tout cas ce qui est sûr, c'est que plus on les décrit comme invisibles aujourd'hui, c'est vraiment la tarte à la crème, quoi. Les jeunes invisibles, les jeunes oubliés, on va aller à leur rencontre, ils sont de moins en moins invisibles et oubliés d'une certaine manière.
Sont suspendus à un mètre du sol, se souviennent du soleil, s'acclimatent au sous-sol. Les légumes que l'on sème voyagent plus que nous-mêmes, et sur le trône nos fesses rivalisent de blême. On pelouse nos jardins, nos allées, nos chemins. Et l'on passe notre enfance à se laver les mains. Il arrive que mon cœur, à l'approche d'un cyclone, soit content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. Nos enfants doivent passer par l'école. Construisons des écoles où la terre est au centre. On bâtit nos mariages, des enfants dans le ventre. On construit des maisons, mais nos bases sont hors sol. Bébé hydroponique, tête aux gouttes à gouttes. Si nous regardons les arbres, c'est qu'on s'ennuie de la route. Et je pense à ces livres qu'on ne doit raturer. On respecte les arbres, on ne sait les aimer. Long. jardins, nos allées, nos chemins. Et l'on passe notre enfance à se laver les mains. Il arrive que mon cœur à l'approche d'un cyclone soit content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. Hors sol, nos racines sont hors sol. Quand nos parents s'en vont, hors sol, nos racines sont hors sol. Quand nos parents s'en vont, plongeons toutes mains dans la terre. Ça, la vie, ça même, bon Dieu, ça même, bon Dieu.
Que pour le monde urbain. C'est ça qui est bien.
Elle soutient les agriculteurs, Marine Le Pen.
Comment tu sais ?
J'ai vu ça sur les médias.
Elle voit bien qu'il y a un problème au niveau de l'agriculture en France. Qu'au niveau des marges ou du prix, l'agriculture en général est en faillite un peu.
Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va directement au contact des agriculteurs. Donc elle discute avec eux, elle met des engagements, on va dire.
Comment ça ?
Bah, par exemple, pour aider les agriculteurs à pouvoir se verser un salaire.
Mais tu l'as vu, toi ?
Passer aux infos pour les élections présidentielles. Elle est passée en Bourgogne-Franche-Comté chez un agriculteur. Donc elle est passée, elle a vu les misères que c'est. Comme quoi, maintenant, les cultures ou le bétail ne rentabilisent plus, voire pas. Et que bah, ils se versent même plus un salaire.
Bah, je pense que moi, la politique, quand même, en général, c'est des très beaux parleurs, mais... Ils parlent, ils proposent des idées qui seront par exemple jamais reflétées ou reprises durant leur présidentielle ou leur vie tout simplement.
Sauf Marine Le Pen.
Oh bah Marine Le Pen elle est comme les autres aussi. On ouais. Sait pas, bah ça se trouve elle serait passée présidente aussi, mais tout ce qu'elle a dit elle l'aurait peut-être pas fait, on le sait pas.
Jean-Vincent Olimbre.
C'est un problème, je dirais, assez classique en France qui est, concerne les effets de la centralisation étatique sur les comportements politiques. C'est quelque chose qui est très ancien et qui tient à l'organisation politique du pays et qui conduit à une sorte d'opposition entre le peuple et les élites. Et ce qui a conduit d'ailleurs à plusieurs crises importantes dans l'histoire politique française. Et il est vrai que Marine Le Pen a su tirer profit de cette situation, mais d'autant plus fortement qu'elle n'a jamais eu à exercer le pouvoir. Ça aussi, c'est un élément important. C'est-à-dire que c'est très facile, entre guillemets, de tenir un discours consistant à dire « Paris ne vous écoute pas » quand on a soi-même jamais exercé des responsabilités au niveau national, des responsabilités importantes. Et donc, il y a aussi, dans le discours de ces jeunes, eh bien, on peut tester... En fait, ce qui n'a jamais été testé, parce que ça ne peut pas être pire. Mais en réalité, cette question de la centralisation, elle se posera avec tout le monde, quel que soit le gouvernant. C'est une question de culture politique. C'est-à-dire que la France a un problème avec la décentralisation, avec le fait de répartir le pouvoir entre le pouvoir central, l'État central et les régions et les départements. Et finalement, on n'a jamais eu autant de lois de décentralisation et le contrôle national n'a jamais été aussi fort. Donc, il y a une sorte de paradoxe français où on veut décentraliser et où en fait, on ne fait pas confiance aux collectivités territoriales pour gouverner. C'est vrai que la perception des jeunes professionnels, c'est la perception d'un pouvoir qui est non seulement aveugle, mais qui est invisible, en quelque sorte, ou alors qui est à distance des réalités locales.
Et tu regardes la montagne, tu regardes le ruisseau, et la montagne est une montagne, et le ruisseau est un ruisseau. Tu observes la vallée, pendu par la pluie creusée, tu observes les sommets, leur ombre est projetée.
Emmanuel Macron, on va dire qu'il est plus concentré sur l'urbanisme, sur les villes, sur la richesse.
Sur la retraite.
Aussi.
Si on regarde les vidéos de la campagne qui passait à la télé, on voyait Marine Le Pen sur un fond plutôt dans la campagne. Et Emmanuel Macron, il a fait sa vidéo, lui, en pleine ville, quoi. Donc ça prouve qu'il y a... Enfin, quelle est la priorité des deux, quoi. Bah c'est sûr, moi je vis dans la campagne, donc je me sens plus représenté dans une vidéo qui se passe en campagne qu'en ville.
Qu'est-ce que vous auriez voté ?
Marine Le Pen.
Je pense à mon avis que pour tout le monde qui est ici, on aurait voté Marine Le Pen.
La ruralité, elle a joué un bon petit rôle, je pense, pour le deuxième tour. Déjà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont voté, s'il me semble bien. Et je pense que la France, là, elle est en train de tourner une nouvelle page au niveau politique.
C'est-à-dire ?
Bah, je pense que ça va faire trois décennies, je crois, trois quinquennats. Ça se dit comme ça que c'est de gauche. Et je pense que du coup, ça va changer de côté. Passer peut-être plus vers la droite aux prochaines élections. Mais je pense que, par exemple, par rapport au mandat de Mélenchon, ou qui veut donner de l'argent à tout le monde, je pense pas que ça soit une bonne idée, parce que du coup, il y aura plus d'immigration, il y aura plus de personnes qui voudront rentrer en France juste pour toucher ça et vivre une vie, alors que certains Français touchent pas ça et sont à la rue. Et même au niveau du chômage, il y a quelques personnes, ils préfèrent travailler 6 mois et après se mettre au chômage, parce qu'ils gagnent plus être au chômage que gagner en travaillant.
Je pense aussi aux chefs d'entreprise agricole, qui eux, il y a certains qui ne versent même pas de salaire, quoi. Alors qu'il y en a qui, dans la ville, sont là dans leur canapé, et puis voilà, ils ont des sous à être sur leur canapé, quoi.
T'en connais, toi ?
Oui. Non, mais moi, j'ai vu des reportages.
Je trouve que je suis pas d'accord que tout le monde rentre comme dans un moulin dans la France. Si les gens viennent là, bah c'est pour bosser ou c'est pour apporter quelque chose à la France et pas la modifier. Moi, je pense que la France, faut qu'elle reste authentique et pas qu'elle soit modifiée n'importe comment par n'importe qui. Je pense que bah, y a des gens où bah, je suis pas trop d'accord avec eux. Ils ont une vision un peu du monde un peu trop égale et ça me plaît pas trop. Bah, je parle des gens de gauche. J'aime pas trop ça. Bah, ils vont privilégier l'égalité à la liberté, alors qu'il y a des gens qui vont se l'amener dur pour bosser, et bah au final qui vont tout reverser à des gens qui bossent pas.
Ouais, alors ça, la figure du cassos, du cas social, c'est une catégorie à la base qui vient d'en haut, c'est-à-dire le cas social, c'est quelque chose qui est du vocable institutionnel à la base.
Benoît Coquart.
Mais qui va servir à identifier des groupes de la population. Et il me semble que dans tous les espaces où il y a une forte interconnaissance, il y a toujours, et c'est généralement aussi des espaces où, voilà, on va être plutôt soit dans les quartiers populaires, soit dans les campagnes populaires, c'est généralement des espaces où il y a la figure repoussoire du chômeur qui a commencé à s'installer. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai enquêté dans plusieurs campagnes en déclin, mais en fait, à mesure que j'allais dans des espaces qui étaient marqués par les désindustrialisations, marqués par l'idée d'un c'était mieux avant, marqués par l'idée que ben voilà, le chômage avait augmenté, bon, l'idée qui est généralement vraie, hein, les gens connaissent la réalité sociale qui les entoure de proches, ben, en fait, plus on allait vers les espaces où il y avait moins d'emplois, plus le fait d'être au chômage était stigmatisé. C'est-à-dire que c'est une insulte qu'on se renvoie de proche en proche par une forme un peu de distanciation mutuelle, c'est-à-dire qu'on est toujours le cassos de quelqu'un. Il y a toujours l'assisté du coin et qui lui-même va vous critiquer les cassos. Moi et d'autres hein, chercheurs, on a constaté que parmi les populations les plus précaires, il y avait souvent un recours en fait aux arguments de l'extrême droite pour justement critiquer cette idée des cas sociaux, des assistés qui profiteraient toujours des aides sociales, alors que soi-même on est étiqueté comme un cas social dans l'espace dans lequel on vit, dans l'espace local. Mais on renvoie en fait le stigmate sur d'autres pour aussi un petit peu s'en départir. Et c'est en fait une espèce de réaction en chaîne comme ça. C'est un véritable capital symbolique, si vous voulez, que de pouvoir revendiquer d'être du côté de ceux qui travaillent le plus vis-à-vis en fait d'autres. Et c'est quelque chose qui est très fort chez les jeunes, parce qu'en fait, ils sont dans une période où ils ont tendance à être un peu... Les jeunes pensent un peu pareil que leurs parents, mais de manière plus radicale, de manière générale. En fait, c'est ça, la jeunesse.
C'est étonnant, comme l'eau bouge tout le temps. C'est étonnant, c'est immobile, c'est rapide et c'est lent. Sa développante est la plus raide. Sans sa volonté, ça creuse tout. Ça va. C'est étonnant, comme ruisselle tous mes sentiments. Comme je bois, je crache, comme je pleure. Liquide ma peine, mon plaisir, mon malheur. Par les lèvres on rentre, les lèvres on sort. se refermer. Comme on en saisit la mesure à la trace qu'elles nous ont laissée. Vois comme toutes les blessures se ressemblent. Vois comme tu vas les oublier.
Ça vient aussi du fait que ces jeunes voient leurs parents écrasés de travail sans parvenir à se verser un salaire.
Il faut voir de quel agriculteur on parle. Je pense qu'agriculteur, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Vraiment, entre l'éleveur qui est dans une filière en crise, qui a de grandes dettes, qui a des énormes amplitudes de travail, le petit maraîcher, enfin voilà, tout ce type d'agriculture-là qui aujourd'hui est en crise, qui est très mal rémunéré, alors même qu'elles sont essentielles, et certaines formes, certaines exploitations dues à la grande concentration des terres agricoles, parce qu'il y a des agriculteurs qui s'en sortent très bien, notamment quand on est sur des campagnes céréalières, sur des grosses exploitations. On retrouve notamment au niveau des patrimoines, les plus gros patrimoines localement ont tendance à être ceux des agriculteurs. Il y a eu des enquêtes notamment faites ici sur les banques en milieu rural. On voit que les plus gros comptes en fait sont ceux des agriculteurs qui investissent beaucoup ailleurs. Donc ça c'est une partie de l'agriculture. Et dans les espaces ruraux, l'agriculteur parfois c'est, enfin moi en tout cas ceux dans lesquels je travaille, des campagnes en déclin, l'agriculteur vis-à-vis des ouvriers, c'est quelqu'un qui est dominant. C'est quelqu'un qui est mieux loti économiquement, etc. Alors ça va faire bondir peut-être plein d'agriculteurs qui galèrent, mais je sais qu'il y en a plein qui galèrent, mais n'empêche qu'il y en a aussi qui ont des gros patrimoines. Et je pense que c'est important si on veut parler justement de la ruralité et de pas en faire un bloc homogène, il faut aussi dire qu'au sein d'un même espace rural, il y a des dominants et des dominés. Et dans la jeunesse, il y a vraiment des jeunes qui, quand ils parlent, les autres se taisent, notamment quand ça parle politique. Parce qu'il faut être dans le moule, parce qu'il faut se conformer aux autres pour ne pas être traité de cassos. Justement, moi j'avais des jeunes qui me disaient, moi je suis bien de droite. Et ils le disaient devant des enfants d'agriculteurs céréaliers, devant des enfants de patrons du bâtiment, etc. Et puis après, quand on faisait un entretien à la maison, ils disaient, tu sais, en fait, je vote pas, je m'en fous de la politique. Et puis à la limite, moi les mesures qui m'intéressent, c'est plutôt qu'ils augmentent le chômage. Enfin voilà. Mais il dit, ici, si tu commences à dire ça, tu vas être traité de cassos. Donc en fait, tu ne peux pas soutenir ce point de vue-là publiquement. Parce que sinon, ça t'ostracise vis-à-vis des sociabilités, vis-à-vis de ta bande de potes. Et ils savent que non seulement avoir des potes, moi, ça permet de passer des bons moments, etc., mais aussi que c'est nécessaire pour eux, pour avoir du boulot, pour pas être mis sur la touche, quoi.
Jean-Vincent Olimbre.
Lorsqu'on parle de Lyon dans les médias, c'est pour décrire des devantures de magasins qui sont fermés, des centres-villes désertés, de la très grande pauvreté, de la déshérence en réalité. Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, mais le département n'est pas réductible en quelque sorte à l'image qui est donnée de lui le plus souvent. C'est un département qui, par exemple, est très actif sur le plan culturel. Auxerre, par rapport à la taille de la ville, est très, très vivante sur le plan culturel. Et donc, c'est vrai que les médias ont tendance à mettre l'accent sur les problèmes de cette France qui souffre et qui est reléguée. Et donc ça va aussi amplifier peut-être le sentiment de ces jeunes électeurs qui vont voter le Rassemblement National. C'est vous considérez qu'on est des moins que rien, vous considérez qu'on est des relégués. Eh ben non, c'est pas vrai, et on va redresser la tête en votant pour une candidate qui défend la fierté, en quelque sorte, nationale. On voit bien qu'aujourd'hui, les jeunes vont se reporter sur deux candidats, sur la dernière élection, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui sont des candidats qui, à un moment donné, vont dire il faut retourner le stigmate, en quelque sorte. Alors, ça va s'exprimer différemment, les deux électorats sont évidemment très hétérogènes, mais c'est frappant de voir que chez les jeunes, ce discours de la fierté, d'une fierté retrouvée, d'un honneur retrouvé, c'est quelque chose qui est très fort. Là où les candidats comme Emmanuel Macron vont davantage mettre l'accent sur l'insertion de la France dans la mondialisation, la start-up nation, etc. Discours qui ne parle pas du tout à cet électorat populaire.
Vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, campesino, campesino, nunca muertos si dormidos, cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino.
Bah, aux prochaines élections, j'aurai 20 ans, je crois, 19. Ou 19. Je me suis fait mes petites idées. Après, peut-être que mon opinion changera, parce qu'il y a encore 3 bonnes années avant les prochaines élections. Donc, en 3 ans, le monde, il a le temps de changer. Mais moi, je sais pas, Marine Le Pen, bah, je sais pas, je me reconnais. Enfin, je me reconnais pas, mais bah, il y a beaucoup de points où je suis d'accord avec elle. Et je me souviens que dans ses discours, elle essayait de montrer que bah, elle soutenait le monde agricole. Enfin, en allant faire des interventions auprès des agriculteurs, d'être à leur écoute, de savoir qu'est-ce qu'il fallait changer, de... Enfin, c'est comme ça que ça marche, c'est d'être à l'écoute, c'est de voir comment pensent les gens, et pas d'être président et de se sentir le roi du monde et tout penser de son côté.
Il ne faut pas s'étonner quand on voit, en quelque sorte, la défiance qui est croissante entre les partis de gouvernement et les électeurs, et qu'on voit aussi qu'au fond, depuis plusieurs mandats, il y a un sentiment d'échec. Nicolas Sarkozy, qui avait pu être confortablement élu, n'a pas été réélu et a suscité la déception, y compris dans son camp. François Hollande n'a même pas été en situation de se représenter. Et Emmanuel Macron a été réélu, mais dans quelles conditions? C'est-à-dire, finalement, en faisant le jeu du Rassemblement national et en faisant monter, en quelque sorte, ce sentiment contestataire dans le pays, ce qui lui a permis, en quelque sorte, de contenir la montée de la gauche. Et donc, parce que Marine Le Pen, jusqu'à présent, a été confrontée au fait qu'elle ne peut pas s'allier à qui que ce soit. Et donc, ça a été aussi un calcul de la part d'Emmanuel Macron d'affronter Marine Le Pen. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation où probablement le Rassemblement national n'a jamais été aussi près du pouvoir, parce que non seulement l'adhésion a augmenté, mais en plus, le parti est devenu quasiment un parti de gouvernement, un parti qui s'est notabilisé, qui porte une voix qui n'est plus simplement une voix de contestation, mais aussi une alternative politique. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé lors de la dernière élection.
Bah oui, quand on a causé pour l'élection. Ouais, à l'époque, c'était il y a un an, mais... Oui,
oui. C'était tard l'époque.
Non. Puis même quand Macron il était élu pour la première fois, on a causé tous ensemble.
Et donc, vous êtes tous plus ou moins d'accord, là, votre génération, autour de Marine Le Pen nous représente.
Aussi, on est trop jeune pour dire. On est trop jeune pour tout savoir aussi. Ouais. Mais on a une petite opinion quand même sur elle. Donc,
on arrive à se construire une pensée.
Ouais, voilà, c'est ça.
Aux dernières élections, vous auriez eu le droit de vote. Vous auriez tous voté pour Marine Le Pen.
Oui,
je pense.
Et vous pensez que c'est le cas chez tous les jeunes agriculteurs comme vous?
Pas tous.
Chacun a son avis, hein. C'est vachement... Bah, déjà, c'est quelque chose qui est intime. Après, c'est suivant comment les gens pensent de...
Il y aura une majorité, oui, je pense. Pour Le Pen.
Chez les jeunes.
Chez les jeunes, je pense. Chez les jeunes agriculteurs.
Après, ça dépend.
Pas tous, mais à peu près moitié, je pense.
se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre están anunciando que ella empieza la jornada
un petit peu délaissé de la classe politique. Tout le monde parlait d'agriculture parce qu'il y a eu la crise agricole, mais bon, avant, on existait aussi, quoi. Enfin, c'est pas au mois de janvier qu'on a apparu.
Venez, 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 venez.
Jordan, il a essayé de toujours nous soutenir et il a toujours été avec les agriculteurs. Il a pas voté les accords de libre-échange qui nous tuent à petit feu tous les jours, donc... C'est pour ça qu'on porte beaucoup d'espoir sur lui.
On ne dit pas qu'on va tout refuser les libre-échanges, qu'on va tout interdire et produire qu'en France, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais il faut qu'on puisse contrôler ce qu'on exporte et ce qu'on veut importer, et avec des conditions, quoi. Quand on voit que dernièrement ils ont fait libre-échange avec l'Ukraine, on peut pas importer du blé ukrainien à volonté pendant que nous, les céréaliers, vont faire quoi ? On va faire quoi du blé ?
Comme Tom, la France rurale vote massivement pour le RN. Lors de la dernière présidentielle, le parti a conquis deux fois plus de communes que celui du président de la République.
Du coup, là, on est dans le centre de Chalin, donc dans mon village où j'ai toujours grandi. Et ben, Chalin-Comtal, ça compte à peu près 730 habitants. On ne sait pas si le maire se représentera, donc on ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière pour reprendre la suite. C'est sûr que s'il n'y a vraiment personne pour se représenter, s'il faut, ben, si j'ai du monde derrière moi, peut-être que je monterai une liste en 2026. Et ben, avant, ça, c'était l'ancien bar de Chalin-le-Comtal. C'était un peu le lieu de vie des habitants de Chalin le week-end. Et donc il a été vendu il y a une dizaine d'années maintenant, et ça s'est transformé en appartement.
Bon, l'objectif ultime, ce serait de pouvoir réouvrir un bar ou une épicerie, un truc pour pouvoir que les gens puissent se réunir quand ils ont envie, les vendredis soirs. Si je peux aider mon village à grandir et à rester attractif, c'est le principal, c'est ce qui me plaît le plus, quoi. C'est une fierté quand même de recevoir un député Chalin et qu'il y a peut-être quelques personnes du village qui viendront écouter ce qu'il a à nous dire. Puis ça montre aussi que le parti n'est pas déconnecté et qu'il va, même dans les petits villages de 700 habitants, on espère qu'il nous parlera de l'Europe, hein, qu'il nous parlera des agriculteurs, des enjeux à venir après les élections européennes, parce que ce qui va arriver, c'est après les élections européennes, on fait quoi ?
Pour les droits, madame.
C'est bon. Tiens.
C'est grâce à toi, mon Tom, qu'on a eu ça ?
Ouais, grâce à moi, je sais pas. Mais... Du coup, j'ai demandé à mon maire si c'était possible d'avoir la salle. Il nous l'a fait gratuitement, donc voilà. Par contre, là, tu fais des tranches de ville.
On pourrait faire des vraies
tranches. Hein.
Des vraies tranches ? Non, mais ça aurait été pas assez grand, je pense, pour accueillir Jordan.
C'est la première fois qu'un parti seul est donné dans les sondages à plus de 30%. C'est jamais arrivé. Donc je crois que déjà, on peut se féliciter. Alors, attention, évidemment, ce ne sont que des intentions de vote. Et l'élection n'est pas faite à l'avance. Et c'est pour ça qu'on vous réunit aujourd'hui, c'est pour vous rappeler ce message, pour que vous vous mobilisiez vous-même, que vous mobilisiez votre famille, votre entourage, pour que ces intentions de vote, bien sûr, se transforment en vote réel le 9 juin avec un bulletin Jordan Bardella déposé dans l'urne.
On s'aperçoit que maintenant, dans les villes, il y a de plus en plus de violence, d'insécurité. Donc c'est vrai que pour l'instant, nous, on est un petit peu protégés de ça. En ce moment, avec ce qu'on entend, que si on accueille plus de migrants, il faudra les repartir partout en France et les mettre dans les campagnes. Ça fait un peu peur parce qu'on n'a pas envie que la tranquillité de nos villages finisse comme en ville avec de l'insécurité.
Il y a du coca, du vrai coca. Ça me
devient vide.
J'aimerais briguer la mairie.
Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Soit mener la liste ou soit être au moins adjoint.
T'as quel âge ?
21 ans. Bah oui, c'est bon.
C'est jeune, mais il faut trouver des gens qui viennent avec toi, avoir un projet.
Le projet, c'est qu'on n'a pas de commerce. Quoi.
Voilà, c'est pas de faire revenir des commerces dans notre ville. Non, mais regardez, Jordan, il a commencé tôt et finalement, c'est lui qui a en tête des élections européennes. Au début, on a dit, qu'est-ce que c'est ce Blanc-Bec ? Il est trop jeune, il a pas l'étoffe, il a pas la carrure. Et puis en fait, c'est lui que les gens préfèrent pour l'instant. Donc d'une certaine façon, la jeunesse, c'est pas un handicap. Quand on a la tête bien posée sur les épaules, c'est plutôt un avantage.
C'est ce que j'essaie de faire.
Il faut être un bon bonhomme.
C'est ça.
À la campagne, il faut être un bon bonhomme. Voilà.
Thank you.
ou quoi?
C'est sa place. Contre Le Pen, la millionnaire. Vous venez m'aider un petit peu, s'il vous plaît? Le racisme, ça divise les travailleurs, donc vous faites le jeu des millionnaires. Le Pen, elle est millionnaire, donc vous faites son jeu.
Je vois pas pourquoi on se cacherait. Hein. Les macronistes, LFistes, ils se cachent pas, ils ont pas de honte. Donc nous, on n'est pas violents, on tape personne, on respecte les opinions, contrairement à ce que d'autres disent. Donc ouais, ceux qui respectent le moins, c'est eux. Finalement, c'est bien la gauche.
On a zoomé.
Bonjour, pour les élections européennes du 9 juin. Bonne journée. Pour les élections européennes du 9 juin. Jordan Bardella. Bonne journée. Je me sens patriote, quoi. Je me sens français. Et c'est vrai que ça blesse quand les gens disent qu'on est fasciste, qu'on est raciste. Enfin, c'est vraiment pas ce qu'on est. Et qu'il y en a des gens qui pensent ça de nous, ben, c'est triste, quoi. Moi, je me sens pas du tout raciste, fasciste. C'est pour Jordan Bardella.
Hein? Ah non, oh là là. Surtout pas.
Bonne journée.
Ils sont libres, chacun a son opinion, mais quand il aura vécu un petit peu, si mettait le nez dans un livre, dans l'histoire, et s'il faisait l'ADN de son parti, quand il parle des patriotes, mais quand il, les fondateurs de son mouvement, quand il voyait un patriote, il lui tirait dans le dos, au mieux, ou alors il le livrait au SS. Voilà, bon ben c'est ça, c'est le parti, c'est tout, hein. Bah, ils disent qu'il va régler tous les problèmes, parce que des problèmes, non, parce qu'il mesure 1m90, il a une belle cravate, il est un peu gominé, mais il lui manque juste la moustache, là, comme ça, et puis...
Bonjour madame, pour les élections européennes du 9 juin. C'est souvent le seul argument qu'ils ont contre nous, quoi. Maintenant, c'est plus Front National depuis 2017, le Rassemblement National. C'est le premier parti de France au niveau des jeunes. Je pense qu'on est loin des idées des années 90. Après, si on refait les histoires de toutes les familles politiques, c'est plus les idées qu'ils avaient il y a 40 ans. Enfin, je sais pas, tout le monde évolue. Donc, et moi, j'ai jamais fait partie de ce parti-là, donc je peux pas... je sais pas, j'ai pas d'argument sur ce qu'était le Front National, j'y étais pas, donc... vous en voulez pas?
Avant que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Si c'était pire avant que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever tout ce petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. C'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je Je n'ai plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. À regarder marcher, à regarder grandir, et puis de temps en temps, lui parler de voyages, fabuleux paysages dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants.